L'Europe, avec sa nouvelle constitution et ses premières élections à 25 au cœur de l'actualité de cette semaine. Dernier événement en date, l'adoption par les dirigeants européens de la constitution qui n'est pour l'instant qu'un traité international avant sa ratification par les peuples ou les parlements. Pour André Lamassoure, membre de la convention, député du Parti populaire européen, ce n'était donc qu'une étape.
Tout dépendra maintenant de la confirmation par les peuples ou les parlements nationaux au moment de la ratification et de la qualité des personnes qui seront désignées pour exercer les premières fonctions européennes. Parce que la nouveauté par rapport à la situation actuelle, c'est que avec la Constitution, l'Europe ne sera plus dirigée par les premiers ministres nationaux qui, pendant leurs heures supplémentaires, dirigent l'Europe. Elle sera dirigée par des dirigeants propres, élus par les citoyens européens. Et naturellement, de la qualité de ces dirigeants dépendra largement la réussite de l'entreprise.
Le texte adopté ne fait pas mention des racines chrétiennes de l'Europe. Pas de référence à Dieu non plus. Pour le Vatican, il s'agit d'un rejet de l'évidence historique et de l'identité chrétienne des populations européennes. Le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, regrettait la non-référence à Dieu.
Je le regrette beaucoup parce que si vous faites un voyage de Gibraltar à l'Estonie, on verra que partout on voit la croix. Partout on voit l'église au milieu des cités ou des villages. Et d'autre part, Dieu veut dire qu'il y a des valeurs qui sont données, qui sont une précondition pour la vie politique et pour la vie personnelle. Et si on nie ces valeurs, on ne nie pas seulement Dieu, mais on nie aussi la dignité de la personne humaine.
La construction européenne est bel et bien en marche, mais n'a pas encore convaincu les citoyens. Ils votaient dimanche dernier pour élire le nouveau Parlement représentant 25 pays. Des élections marquées par une abstention record et des votes sanctions contre les gouvernements. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman à Paris, appelait à un sursaut des politiques pour contrer cette crise de confiance.
Sur le plan strictement politique, il faut quand même pas désespérer. Le Parlement européen va être constitué à 80-85% de députés pro-européens. Les populistes, les eurosceptiques sont très minoritaires mais présentes. Il pourra donc y avoir un débat. J'en appelle vraiment aux nouveaux élus qui représentent les peuples d'Europe pour qu'ils prennent toute la dimension politique de leur mission. Maintenant, c'est l'heure de faire de la politique au sens le plus noble du terme.
En effet, autre leçon à tirer de ces élections, la percée des populistes et des eurosceptiques, un repli sur soi de certains pays européens. Le document du comité épiscopal des migrations en France tombait à pic quand l'étranger frappe à nos portes, c'est son nom, a été présenté par Mgr Jean-Luc Brunin, président du comité.
Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe fait fausse route si elle s'imagine qu'elle pourra devenir une forteresse qui se protège de tout mouvement extérieur. Ces mouvements migratoires, ils sont vécus aujourd'hui comme des catastrophes, alors que ça peut être une chance et on sait que l'Europe aura besoin de recourir aux migrations pour des raisons démographiques et pour des raisons de développement économique. Et le Saint-Père insiste fort sur cette solidarité où chacun porte le souci de tous. Ce qu'il souligne aussi, c'est l'importance de ne jamais perdre de vue le souci du bien commun universel. Et je crois que là, on ne peut pas accepter des situations où un continent entier comme l'Europe se recroqueville sur elle-même et oublie ce bien commun universel.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe organisait en milieu de semaine une conférence sur les sites et forums racistes, antisémites et xénophobes sur Internet. Ces sites se multiplient sur la toile et il est difficile de lutter, d'autant plus que la législation n'est pas la même en Europe et aux États-Unis, comme nous l'expliquait Mathieu Lerondeau, chargé de mission auprès du Forum des droits sur Internet.
On sait que 4 à 5000 sites sont accessibles, ce qui donne déjà une indication sur l'audience potentielle de ces sites. Alors si, disons, en Europe, on dispose d'un arsenal pénal assez consistant permettant de punir de tels actes, ce n'est pas le cas notamment aux États-Unis. Le premier amendement à la Constitution donne de très fortes garanties à la liberté d'expression, au point de rendre impossible l'adoption de mesures comparables à celles dont nous disposons ici. Et la délégation américaine nous a bien fait comprendre que cet état de choses n'évoluerait pas à court terme.
Et nous terminerons cette chronique avec la rencontre rencontre interdicastérielle sur le New Age qui s'est tenue au Vatican. Une vingtaine d'experts et de représentants du Saint-Siège ont réfléchi pendant 3 jours à cette nébuleuse ésotérique et à la pastorale à proposer dans ce domaine. Le président du Conseil pontifical pour la culture, le cardinal Poupart, s'inquiétait de cette réalité.
Le New Age, que j'ai appelé une nébuleuse aux contours flous, utilise des concepts chrétiens. Il parle de Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ dont il parle, ce n'est pas Jésus-Christ, fils de Dieu. Tout le monde est Jésus-Christ. Il parle de la prière, mais la prière, ce n'est plus, comme Jésus nous l'a enseigné, une demande adressée à notre Père des cieux. C'est une espèce d'introspection psychologique. Il s'agit de se fondre dans une vaste énergie cosmique. Alors vous voyez l'enjeu de tout cela. Comme l'homme a un besoin inné de bonheur, au fur et à mesure qu'il s'écarte de ce salut que Jésus est venu apporter, eh bien il va vers les faux dieux et les idoles.